Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans l'émission Au bout du foot pour une émission spéciale présentée par Eladji Makalou. Merci à vous d'être encore avec nous ce soir. Et pour ce soir, on va débriefer sur les matchs du Mali qui ont opposé face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et on va aussi débriefer sur le match du Cap-Vert face à l'Afrique du Sud. Avec nous ce soir, nos chroniqueurs habituels, Alfred, Arthur, Cheikh Kenza et Salé. Merci messieurs d'être encore là avec nous ce soir. Alfred, tes premières impressions sur la défaite du Mali au bout du bout des prolongations qui se sont fait égaliser. Je réactualise un peu. Voilà, c'était un match très mené par l'équipe du Mali qui s'est soldé à la dernière seconde par un but, une égalisation. Et ensuite, au bout du bout des dernières secondes aussi des prolongations, ils prennent le 2-1. Quelles sont tes impressions, Alfred ?
De façon honnête, le résultat il est difficile à accepter. Pourquoi ? Parce que d'entrée du jeu, on reconnaissait déjà les qualités du Mali. Mais bon, comme je vous dis, la Côte d'Ivoire, elle a gagné parce qu'elle jouait chez elle, il y avait les supporters et tout. Et puis, bon, ben voilà. Mais de façon honnête, comme je vous dis, le Mali avait tout pour pouvoir gagner ce match d'aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est une victoire, il faut faire avec. Et puis encore, pendant ma foi, le match... Pour moi, à titre personnel, le message que les Ivoiriens véhiculaient n'était pas un message à accepter parce que bon, on avait l'impression que si la Côte d'Ivoire perdait, on ne sait pas ce qui allait se passer. Bon, donc je fais que même quand le jeune malien il a marqué, il a fait une salutation de politesse pour ne pas avoir soulevé toutes vos limites. Mais la Côte d'Ivoire s'est battue, oui, elle s'est battue jusqu'au bout pour sauver son honneur. Après, bon, comme je vous dis, il faut faire avec, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tous ceux qui fournissent des efforts ne sont pas récompensés. Puis bon, ben voilà, il faut faire avec, c'est le sport, voilà.
Merci Alfred. Arthur, toi, dis-nous tout. Quelles sont tes impressions sur ce match-là ?
Ben, pour moi, j'ai pu suivre que à partir de la prolongation, puisque j'avais match moi personnellement. Donc, de ce que j'ai vu sur les prolongations, c'est que l'équipe du Mali, en fait, on voyait pas énormément de différence entre comment dire une équipe qui joue en infériorité numérique et une autre, parce que j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire était beaucoup en maîtrise, n'était pas forcément dangereuse et en fait, ça filait, ça devait filer tout droit vers les tirs au but, et malheureusement, le destin, en a voulu autrement.
Merci à
Mais c'était pour le Mali, hein, franchement. Il y avait le scénario, il y avait tout, l'expulsion, tu vois, un pénalty, je crois, raté, c'est ça.
Un pénalty loupé, hein, je pense
Voilà.
que c'est le tournant du match même. Hein. Un pénalty loupé à la 16e minute parce que le Mali a commencé très fort dans ce match-là. Ils sont rentrés comme habituellement, ils rentrent dans d'autres matchs. Et voilà, hein, je pense que ça a été vraiment le tournant du match, ça a été le pénalty où à ce moment de la compétition, on ne peut pas se permettre de louper un pénalty d'entrée de match comme ça.
Mais
Voilà.
t'aurais pu mettre la tête sous l'eau à cette équipe-là en marquant d'entrée dès le début de match mais tu le fais pas
Ah oui, à partir du
mais
moment où le but n'est pas inscrit en
oui.
première période.
Mais de toute façon si on veut parler football, mais une équipe qui joue à 10 contre 11 autant de temps, tu dois avoir la maîtrise du jeu, tu dois faire le jeu, tu dois être tueur, et malheureusement ça ne s'est pas vu. En tout cas, moi ce que je dis, c'est sur les prolongations ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu une équipe qui allait chercher un résultat, au contraire, j'ai vu des Ivoiriens en confiance et qui ont été optimistes dans le jeu. Voilà.
Ils ont été très réalistes en tout cas. Cheikh Kenza, toi, dis-nous tout, tes impressions sur ce match-là. Je pense que bah, tu dois être très satisfait quand même de la victoire de la Côte d'Ivoire.
Ouais, en tant que supporter, oui, mais en tant que consultant, non. Parce que vraiment, on a vu dans le temps de match une équipe malienne qui était très à l'aise avec le ballon, mais qui nous a créé pas mal de problèmes. Déjà, un premier pénalty qui n'a pas été sifflé dans le temps de match. Après les 20 premières minutes, le Mali a très bien joué. La première mi-temps, dans l'ensemble, ça a été vraiment agréable. J'ai vu vraiment des footballeurs, des talents. Surtout, j'ai beaucoup aimé la prestation d'Amadou Aïdara, qui nous a créé pas mal de problèmes. Déjà, il n'y a pas que lui. Il y a eu aussi un Sinayoko qui a été très bon aussi, avec des appels en profondeur et tout ça. Et le Mali, ils avaient la possession. Quand tu regardes le match, le Mali avait 62% de possession contre 38% pour la Côte d'Ivoire. Le Mali, ils ont 11 tirs au but. Ils n'ont que cadré 4. Par contre, la Côte d'Ivoire, 11 tirs au but, qui cadre 3. Et quand je regarde les 3, il y a 2 buts. Donc, je pense que le Mali n'a pas été réaliste. Ils ont un peu penché un peu dans le dernier geste. C'est-à-dire, par moment, oui, il y a eu un peu je sais pas, un peu de fougue, un peu de précipitation. Mais cette équipe du Mali, vraiment, je prends du plaisir à la regarder, à jouer au football. Et c'est une équipe à féliciter. Et quoi qu'il arrive, les Maliens se doivent être fiers de l'équipe nationale. Et je pense qu'il arrive un moment où le Mali finira par gagner. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas tombés sur une bonne équipe, ils sont tombés sur une équipe de Côte d'Ivoire vraiment. Même dans la difficulté qu'il y avait un peu ce mental et tout ça, qu'il y avait un peu ce dernier rempart qui était le supporter, c'est-à-dire une équipe de Côte d'Ivoire à 10, comme Alfred l'a dit tout à l'heure. Mais déjà qu'une équipe joue à 10, c'est-à-dire déjà à 10, il manque un joueur important. Et c'est quoi? C'est un défenseur, en plus un défenseur titulaire. Je pense que les Maliens se devaient vraiment d'être un peu plus tués dans le dernier geste, c'est-à-dire dans les 25-30 mètres derniers. Mais ils ont joué aussi les Maliens, mais juste qu'ils sont tombés sur une équipe de Côte d'Ivoire qui avait une très très bonne assise défensive. C'est une équipe qui ne se permettait pas de s'ouvrir malgré qu'elle jouait à 10, qui avait déjà un bloc vraiment, qui défendait bien et tout ça. Et quand même, quand on regarde le but du Mali, c'est une frappe de, je pense, de 30 mètres de Dorgelès Néné qui fait une infiltration, qui fait fin de frappe, qui rentre
Ouais,
et qui
Néné
frappe.
d'Angelès,
Donc
ça.
ça montre que le Mali vraiment ne s'est pas procuré des occasions dans la surface de réparation malgré la supériorité numérique. Ce qui montre que la Côte d'Ivoire aussi a aussi des qualités.
Mais la Côte d'Ivoire aussi, on jouait très bas. Dès qu'ils ont pris un carton rouge, ils se sont mis en bloc tout de suite.
Oui, mais c'est
Tout
normal
de suite.
parce que c'est la consigne du coach. Mais là, quand on joue en infériorité numérique, on ne se doit pas de s'exposer. Parce que là, si tu t'exposes, ben, ça serait une débâcle.
Bien
Donc, du
sûr.
coup, le coach, vraiment, il a appris de ses erreurs. Il a appris vraiment que oui, malgré le carton, ça pourrait pas déjà endommager son plan de jeu. Je pense qu'ils ont très bien respecté les consignes. Et après, ils optent pour des changements qui sont gagnants. Déjà qu'il fait sortir Serge Aurier, la rentrée de Wilfried Tsengo. En plus, il stabilise déjà sa défense avec la rentrée de Wilfried Bolly. Donc, du coup, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire jouer un 3-4-1. C'est ce qui était la formation, oui. Parce que déjà, il avait trois centraux. Et tu t'imagines que par moment, dans les replis défensifs, on avait Oumar Diakité qui venait jouer latéral. Donc, ça, du coup, ben, ça resserrait le bloc. Il y avait deux lignes, une ligne de 5. Déjà, et une ligne de 3. Donc, à un moment donné, donc, tu t'imagines, une ligne de 5, une ligne de 3 avec deux personnes devant. Donc, c'était un peu injouable pour le Mali qui a essayé. Moi, je tenais à féliciter les Maliens.
Ok, merci, Cheikh Kenza. Salé, toi qui as la double nationalité, toi qui es à moitié ivoirien, à moitié malien, ton cœur était malien ce soir apparemment. Dis-nous tes impressions sur ce match.
Alors, mes impressions. Alors, pour commencer, là, le Mali, ils ont fait une belle entame de match. Ils sont rentrés directement dans les Ivoiriens. Ils les ont mis en difficulté rapidement. Ils avaient la possibilité de se mettre à l'abri dès le départ avec ce penalty de Nos qui a été raté, qui est complètement raté, malheureusement, qui a été arrêté par le gardien. Et je pense aussi que ça, c'est un tournant du match parce qu'à 11 contre 11, franchement, le Mali, ça se voyait la bataille, comme j'avais dit hier, c'était la bataille du milieu de terrain qui allait dicter le match. Et le Mali avait la domination sur ce milieu de terrain. Et jusqu'au carton rouge, à partir du rouge, j'ai l'impression qu'il y a eu un autre match. J'ai l'impression même que la Côte d'Ivoire, on n'a même pas senti qu'ils étaient à 10. Le Mali, ils avaient du mal à trouver les ouvertures pour aller trouver ce but. Ils ont vraiment mis du temps. Il fallait que ce soit un exploit individuel, d'une frappe venue d'ailleurs de Néné d'Argelès. Et à partir de là, 1-0, je suis désolé, mais il restait peut-être une vingtaine de minutes. Et le Mali, normalement, je pense par manque d'expérience, ils n'ont pas cassé le jeu. Ils auraient dû même casser le jeu et essayer de maintenir ce score. Shell, je pense qu'aussi, il y a des changements qui sont un peu durs, ce qui fait sortir des joueurs à vocation offensive pour faire entrer des joueurs défensifs. Et le problème, c'est que quand tu mènes 1-0 face à une équipe qui est à 10 contre 11, je ne vois pas pourquoi tu joues la défense à 7 minutes de la fin. Et je pense que c'est ça qui est un peu... Ça a joué un petit peu quand même. Et derrière, je pense que le but qu'ils prennent, le Mali, ça les casse mentalement. Et dans les prolongations, j'ai senti plus la Côte d'Ivoire un peu plus poussif. Et au bout d'un moment, ça a payé pour eux sur la dernière minute dans la prolongation. Et ça fait 2-1 pour eux, victoire pour eux.
Ouais, merci, voilà. Salé. Oui, après, c'est vrai que le coaching peut être mis en cause. Hein. Le coach ivoirien qui a fait un très bon coaching en faisant rentrer ses bonnes rentrées comme Sébastien Allaire, Diakité aussi. On a vu. Hein, voilà. Mais je pense que même ça a même plus desservi le Mali que la Côte d'Ivoire ait pris un rouge. Quand ils n'avaient pas un rouge, ils étaient exposés. Ils ouvraient le jeu. Et le Mali, ils n'ont pas l'habitude en fait, d'avoir cette possession de balle. Ils n'ont pas cette habitude-là d'avoir cet ascendant sur une équipe qui savent qu'ils ont des qualités et qui peut les punir sur la moindre petite bêtise. Aujourd'hui, on a un invité aussi spécial. On a un artiste rappeur qui nous vient aussi du 13e. HP qui va nous donner son analyse sur le match entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Salut HP.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Dis-nous alors, quelles sont tes impressions sur ce match-là? Je pense que tu dois être très très heureux quand même de cette victoire.
Franchement, je suis content. C'était un match très difficile pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a joué face à une grande équipe du Mali. Ils ont bien joué. En plus, ils nous ont mis à 10 en 40 minutes. Franchement, on a fait un exploit. Et voilà, je suis content. Mais... qu'est-ce que je peux dire du match? Le Mali, ils auraient pu tuer le match dès la première mi-temps, même au début de la deuxième mi-temps. Déjà sur le penalty, ils auraient dû déjà marquer sur le penalty, déjà de 1. Ils ont raté le penalty.
Ouais, on pense que
c'est... Et voilà, ça nous a donné de l'espoir. Hein. Et on a joué, on a poussé. Déjà après le 1-0, je pense que le Mali, ils ont relâché. Tu vois? Sauf que le Mali, ils ont relâché et nous, on a poussé derrière, on a égalisé, on est parti jusqu'aux prolongations. Après, c'est l'expérience qui a parlé. Hein. L'équipe du Mali, elle est encore jeune, je trouve. En tout cas, il y a une grosse équipe aujourd'hui.
Bah, on le voit, hein, ce manque d'expérience-là. On a vu un caissier qui se balançait pas mal, même avant d'être touché, et qui avait des bonnes fautes et qui faisait gagner du temps. On n'a pas vu une seule fois un joueur... et on a vu aussi pendant les prolongations le gardien, vraiment, qui s'est tenu tout au long des prolongations et qui regardait le coach. Et dès que le coach lui disait « relève-toi », il se relevait et il se remettait par terre. Il cassait le jeu, il arrivait. Et ça, c'est vraiment l'expérience qui font ça. Et on n'a pas vu une seule fois un joueur malien se mettre par terre, simuler une truc, or qu'ils sont même pas ils restaient même pas une minute dans le temps réglementaire pour avoir cette place en demi-finale, mais on n'a vu aucun qui a traîné des pieds, qui a voulu, ils ont continué à jouer en fait comme s'il y avait 0-0, et je pense que la faute technique elle est là, en tout cas je pense que c'est une faute professionnelle des Maliens de ne pas avoir gagné ce match là et le tournant du match est clairement au pénalty loupé par Adama
Nos.
Traoré.
Nos. Voilà. Ouais, voilà.
Qu'est-ce que tu souhaites à l'équipe de la Côte d'Ivoire? Bien sûr que d'aller loin, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, mais est-ce que tu aurais des conseils, ton analyse par rapport au jeu ou quoi?
En analyse, déjà, je trouve qu'il n'a pas mis l'équipe qu'il fallait déjà à l'entrée. Je trouve qu'un joueur comme Sébastien Haller, il doit commencer le match. Un joueur comme Madjinga, il doit commencer le match. Tu vois?
Non, mais à l'heure, est-ce qu'il est voilà. en forme
et un, joueur comme, et un joueur comme Auré aussi, franchement, c'est bien beau, c'était bien beau, mais Auré, il est un peu à la traîne.
Il manque pas son coup aussi.
Avant. Il a perdu du rythme, tu vois, il a pris un coup de jeu, ça y est, maintenant, il va jouer un peu les jeunes. Et on l'a vu avec l'entrée du Singo.
Ouais, Singo, voilà.
On l'a vu avec l'entrée du Singo.
Il a beaucoup apporté dans la sérénité défensive, si tu veux, Singo. Mais je pense qu'Alain, il n'a pas vraiment, il n'est pas en bonne condition physique. Pour jouer 90 minutes, ça aussi
précieux.
Ça compte.
Il a été précieux dès son entrée.
Ça aussi, ça compte aussi, parce que le coach, vraiment, il connaît bien ses joueurs. Et sans doute qu'il y a un préparateur physique. Il y a des tests aussi qui sont faits avant tout match. Donc, et connaissant MS Faye, il ne prendra pas le risque vraiment de mettre son meilleur attaquant sur le banc. Sans doute qu'Alain n'était pas dans la meilleure condition physique pour entamer le match.
Ouais, mais Alain, déjà, contre le Sénégal, il fait une bonne entrée. Au premier ballon, il fait une passe décisive pour le pénalty. Là encore, il fait une bonne entrée, il pèse sur la défense. Je pense que le prochain match, je pense qu'il faut le mettre, ça y est. Hein.
Ouais, en tout cas,
je pense que pour le prochain match, il faut le mettre. Ouais. En tout cas, on faut mettre Singo à la place d'Aurier. Et je pense qu'il faut jouer à trois défenseurs dans l'axe, que deux défenseurs.
Ouais, c'est ce que moi j'avais dit. Désolé de t'interrompre. C'est ce que j'avais dit ici. Parce que là, on a comme l'impression que sur la seconde partie du match, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui joue à trois derrière. Et donc, ouais. Ça a beaucoup apporté une certaine sérénité, même si les Maliens, à un moment donné, ils avaient le ballon, ils avaient l'ascendance sur le match, mais on voyait qu'ils n'arrivaient pas vraiment à terminer avec le dernier geste, parce que là, tu voyais qu'il y avait une cage qui était vraiment bien protégée, on avait des défenseurs vraiment qui arrivaient à bien couvrir les espaces, que ce soit dans le jeu en profondeur, en seconde partie de jeu, on avait un Sinayoko vraiment qui était en difficulté, qui faisait plus ses premiers appels qu'il faisait en première partie, donc je pense que la formule parfaite, ça serait de débuter sur un 3-4-3 ou un 3-5-2.
Mmh, et Sinayoko qui a fait une grande première mi-temps, il a fait une très bonne première mi-temps, Sinayoko.
Très bon match et je pense même une très belle compétition. Hein. C'est l'un des attaquants, en tout cas, qui s'est le plus révélé. Je pense que ça va lui porter vers le haut, en tout cas, parce qu'on rappelle, hein, il évolue avec le club de l'Auxerre.
Il joue en Ligue 2, à la Auxerre.
Du coup, je pense que maintenant, il y aura une revalorisation, en tout cas, du joueur. Et je pense que pas mal de clubs ont déjà commencé à se positionner là-dessus.
En tout cas, c'était très fort le Mali. Hein. Franchement, c'est la première fois que j'ai vu le Mali nous poser des difficultés comme ça. Ils ont très bien joué. Okay. Ils ont très bien joué. Après, c'est l'expérience. Voilà. L'expérience a pris le dessus sur le match.
Après, la Côte d'Ivoire, on a l'impression que maintenant, on commence à s'habituer au tir au but. Parce qu'un match de football, voilà, c'est dans le jeu. Donc, quand le gardien il traîne un peu, ça se voit quand même, non?
Ouais, après on était à 10.
Oui, mais c'est à 10, mais enfin, les gens, ils ont envie de jouer. Donc, la Côte d'Ivoire se préparait pour un arbre au pénalty. Et puis, bon, mais voilà, après le Sénégal, le Mali a baissé un peu les bras. Parce que c'est quoi la Côte d'Ivoire, elle a fait? Elle a juste balancé un ballon sur phase de réparation parce que les Maliens, ils étaient un peu épuisés.
Ouais, ils étaient mieux physiquement.
Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, elle avait tout calculé. Mais bon, comme je dis, voilà. Dans le futur, elle devra se préparer quand même à faire quelque chose de bien parce qu'on ne peut pas continuer à gagner comme ça.
Ouais, mais si tu vas jusqu'au bout, maintenant il reste que deux matchs, hein, donc il faut. Tu peux aller au bout comme ça. Hein.
C'est possible.
On verra bien.
Si t'as une dernière petite remarque à nous faire, HP.
Tu dis?
Si t'as une dernière remarque à nous faire, une dernière analyse, un dernier.
C'était tout. Hein. Et voilà, là on passe en demi-finale contre le Congo, j'espère qu'on gagnera. Voilà.
T'as un pronostic ou pas?
Pronostic. Franchement, c'est la canne, hein, cette canne-là, elle est complètement bizarre. Elle est remplie de surprises, cette canne-là, tu vois. Et moi, j'aurais déjà allé à 2-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est bien.
Donc, il n'y aura pas de surprise. Hein.
Ouais, 2-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est noté.
Ouais,
c'est noté, HP, et on espère qu'on t'aura au bout du fil aussi après le match entre la RDC et les éléphants.
Ok.
Merci beaucoup, en tout cas, HP, pour ce passage.
Merci, c'était le but de la soirée. Oui.
Merci. Bon, allez, plus tard.
Moi, je vais revenir sur un truc, c'est qu'en fait, on parle de fait de match, mais à 1-0, t'avais. Enfin, même si tu transformes pas le pénalty, tu ouvres le score quand même, je crois, à la 70e. Ouais. Ben, en fait, c'est bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as l'avantage, il reste peu de
70e,
peu de temps.
En fait, ce qui est dangereux avec la 70e, c'est à double tranchant, parce que 70e, c'est ni le début du match, c'est ni la fin du match. On sait bien que les équipes ont tendance à le plus jouer à partir de la 70e minute, en tout cas à peu près oui, à l'heure plus... de jeu. C'est là qu'il y a le plus de il se passe le plus de choses. C'est là qu'il y a les premiers entrants, le coaching.
Les changements, oui, voilà, mais, les premiers... mais les coachs, ils n'ont plus vraiment la main mise sur la tactique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es en supériorité numérique, tu ouvres le score. Tout est en ta faveur en fait.
Toutes les cartes étaient.
Qu'est-ce que tu veux comme meilleur scénario en fait? Tu vois ce que je veux dire? Il reste 20 minutes à jouer.
Le meilleur scénario était de marquer le premier but à la première mi-temps. Moi je pense que là, la Côte d'Ivoire.
Oui, mais déjà, tu joues à 11 contre 11.
Oui, mais oui, à 11 contre. Non, oui, tu joues à 11 contre 11. Mais même à 11 contre 11, en fait, c'est parce que tu n'as pas pu voir le match des 90 minutes, Arthur. Sinon, si tu aurais vu le match, si tu as moyen de regarder le match,
je
pense que tu aurais une autre analyse du match. En première. En même pas 10 minutes, il y a deux défenseurs, il y a trois joueurs qui prennent des jaunes côté ivoirien et deux défenseurs centraux qui prennent des jaunes parce que Sinayoko leur fait la misère. Sinayoko leur fait la misère. Il leur met deux cartons jaunes, enfin un troisième carton jaune même, puisqu'il y a un rouge qui suit derrière. Du coup, il leur fait vraiment la misère. Et là, le jeu est ouvert. Les Ivoiriens ne voyaient pas le ballon. Ils ne voyaient pas le jour. Les Maliens faisaient... C'était très mouvementé, c'était très tactique. Et là, franchement, à ce moment-là, le plan tactique était gagné. C'est pour ça que je dis qu'Eric Schell, il y en a beaucoup qui peuvent reprocher des choses à Eric Schell, mais Eric Schell n'a pas perdu la bataille tactique. Ce qu'on peut lui reprocher à Eric Schell, et c'est vraiment par ingratitude, parce qu'on a toujours tendance à pointer du doigt le coach quand ça ne va pas, c'est la sortie de Sinayoko. Moi, je ne l'aurais pas fait sortir. À la 83e minute, on gagne 1-0. Il n'y a pas de break qui est fait. Sinayoko était encore... Même si c'est une, deuxième, deux, trois accélérations qu'il aurait pu faire en fin de match, je pense qu'il aurait pu les faire.
Moi, je vais te poser une question parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant sur la possession. Du genre, le Mali se retrouvait avec la possession en étant en supériorité numérique, donc il doit faire le jeu. Mais est-ce qu'ils avaient les joueurs pour mettre le pied sur le ballon et pour vraiment jouer et orienter le jeu correctement?
Oui,
qu'ils ont ce meneur de jeu qui est capable?
Ils avaient ce meneur de jeu. Amadou Aïdara, aujourd'hui, a fait un très gros match.
Oui, mais pour moi, ce n'est pas un meneur de jeu. Ce n'est pas un meneur de jeu, Aïdara, pour moi.
Oui, Cheikh Kenza.
S'il y a un truc que moi, je peux interpeller, la Côte d'Ivoire est meilleure à partir de la sortie de Amadou Aïdara, parce que c'était le seul qui arrivait à régulariser le jeu. C'était le seul qui savait quand il fallait accélérer, qui savait quand il fallait donner le bon tempo. Je pense que la Côte d'Ivoire est meilleure à partir de la sortie d'Amadou Aïdara. Et comme elle a vient de le mentionner, un Sinayoko, il faisait peur à la défense. À un moment, on a vu un Kossono Odilon, malgré son expérience, malgré qu'il joue dans un championnat majeur, avait des réels problèmes face à Sinayoko, vu sa vitesse et ses appels en profondeur. Donc, je pense que Eric Sékou Schell, je pense qu'il a fait un mauvais coaching.
Oui, il a géré le match.
Non, je pense que là, il a fait les mêmes erreurs qu'à Aliou Cissé. C'est-à-dire, il a répété les mêmes erreurs d'Aliou Cissé. Je ne sais pas s'il a suivi le match, il a pu le décortiquer. Mais à un moment donné, on a vu que oui, à 1-0 déjà, pour lui, le match était déjà plié. Parce qu'il ne voyait pas cette équipe de Côte d'Ivoire revenir.
Non, je pense pas qu'il s'est dit ça, Eric Schell. Pas une seule seconde. En connaissant le coach, je ne pense pas une seule seconde qu'il s'est dit ça.
Si, je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, si tu sors Amadou Aïdara, qui est le régulateur du jeu, tu le sors, Amadou Aïdara, et il sort Amadou Aïdara même avant le but. Il sort Amadou Aïdara même avant le but. Parce que pour lui, il se disait que oui, qu'il fallait garder la fraîcheur de ses joueurs.
Non, c'est pas ça. C'est aussi qu'Amadou Aïdara, on le rappelle, avait un carton jaune. Avait un carton jaune, lui, et Adama Nos avait un carton jaune et il voulait pas se retrouver à 10 contre 10. C'est pour ça qu'il a fait sortir Amadou Aïdara. Je suis sûr que sans le carton jaune, il ne le fait pas sortir. Il le fait sortir parce qu'il a déjà un carton jaune. Et pour éviter, là, on commençait à arriver dans un match, dans des moments cruciaux et en sachant que s'il prend un deuxième jaune, il jouera pas une potentielle demi-finale aussi. Il y a beaucoup de calculs qui se
mettent. Même les changements de la Côte d'Ivoire, pareil. Hein. Les coachs.
C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'avais parlé des. Enfin, Eric Schell, de toute façon, il fait une belle canne avec l'équipe. Il ne faut pas, cracher. Il y a du positif dans ce que le Mali a fait jusqu'à présent.
Beaucoup de positif.
Ils ont passé un cap maintenant. Ils ont enfin passé ce cap de passer les huitièmes de finale et de suite de battre une équipe de top 10 dans un match officiel qui était le Burkina. Là, il faut garder au moins le positif. Mais je veux dire, juste sur les changements qui ont été faits sur la fin, je trouve que ça a un peu cassé l'équipe. Moi, c'est juste ces changements-là, pour moi, qui ont, je pense, modifié le match. Parce que s'il était resté dans la même composition, à mon avis, je pense que le Mali allait aller en demi-finale. Mais ils ont mal géré la fin de match. C'est un manque d'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qui a pêché sur le but qui est arrivé juste derrière dans les dernières secondes.
Mais est-ce qu'on va parler que d'expérience ou de talent? Parce que quand même, Quand tu regardes les entrées des joueurs ivoiriens, il y a vraiment.
Ça aussi, ça fait la différence aussi, les entrées d'Aller, les entrées
de Liga,
il y a de la qualité
parce
aussi.
Parce que Aller, c'est un top joueur, on n'en parle pas beaucoup.
Ça,
mais
ça pèse. Ah non,
il était incroyable.
Non, mais Aller, moi, sur tous les matchs qu'il a fait, quand il est rentré contre le Sénégal, on a senti.
Ouais, tu sens.
Même s'il n'était pas à 100%, il était peut-être à 50%, il a pesé sur la défense sénégalaise. Et aujourd'hui, quand il rentre contre le Mali, il pèse
aussi. Il a été un facteur très important.
Il met une tête sur la barre en prolongation. Donc ça veut dire que Aller, attention.
Il a gagné des fautes, il a pu.
Il pèse, malgré qu'il ne soit pas en forme, il pèse sur une défense.
Avec l'entrée d'Alain, on a senti vraiment que les défenseurs maliens étaient en difficulté, que ce soit dans le duel aérien, que même ce soit dans la conservation des balles. Parce qu'avec l'entrée d'Alain, on a vu vraiment Niakate qui ne montait plus, déjà, qui n'arrivait pas vraiment à dépasser la médiane. Donc ça montre que vraiment, Alain, il a les chances pour être titulaire. Moi, j'aurais été à la place vraiment de MS Faye, j'aurais titularisé Alec dans une demi-finale. Parce qu'une demi-finale, ça se joue pas deux fois. Il faut se donner les chances d'entamer de match. Pareil pour Simon Adingra, parce que je pense que Simon Adingra, il a apporté de la vitesse. Un peu ce qui manquait un peu sur ce côté droit, avec l'entrée d'Oumadia qui était aussi. Donc, je pense que vraiment MS Faye, il a reçu son coaching, malgré vraiment que son équipe était à 10. Il a su mettre les bons ingrédients au bon moment pour gagner le match.
Merci, Cheikh Kenza. On va partir sur un 30 secondes chrono entre le Nigeria, pour que vous nous donniez vos impressions entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, pardon. C'est le prochain match qui sera opposé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est plus le match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud aujourd'hui. Alfred, tes impressions, s'il te plaît.
En fait, pendant tout le long du match, les deux équipes étaient en position de pouvoir s'exprimer. Donc, quelque part, aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Et ça, on est jusqu'au tir au but. Le Cap-Vert avait fait bonne impression au départ. Et puis après, elle a baissé un peu. Donc, aujourd'hui, si ça s'est terminé par les tirs au but, c'est le jeu, c'est le résultat du sport. Donc, il faut faire avec. Il faut féliciter les Sud-Africains qui vont jouer face au Nigeria, sachant que ce sera un match, comme j'avais dit ici, si le Nigeria et l'Afrique du Sud se retrouvent, ça va être un match très ouvert. Le Nigeria va utiliser, ma foi, sa technique. L'Afrique du Sud est très athlétique. Donc voilà, elle a résisté au tir au but. Donc pour moi, je pense que l'Afrique du Sud peut gagner, elle peut prétendre. Moi, pour moi, merci. Le Nigeria a tout, mais l'Afrique du Sud peut prétendre à passer en finale.
Merci Alfred. Cheikh Kenza, c'est parti pour tes 30 secondes chrono.
Oui, c'est seulement on a vu un bon match. Une équipe du Cap-Vert qui attaquait. Une équipe d'Afrique du Sud vraiment qui avait un bloc bas et tout ça, mais qui a réussi à gérer le match, qui finit par l'emporter au tir au but. Mais je tenais aussi à féliciter l'équipe du Cap-Vert pour son parcours qui a été remarquable. Je pense que c'est une équipe sur laquelle on peut compter à la prochaine CAN. Pourquoi pas aller voir en demi, même en finale. Et je pense que j'ai assisté à un bon match de football.
Merci Cheikh Kenza qui a terminé même avant les 30 secondes chrono. C'est parti pour les 30 secondes chrono pour Arthur.
D'accord, sur ce match, ça a été vraiment une opposition de style avec une équipe du Cap-Vert qui est égale à elle-même, c'est-à-dire une équipe joueuse qui est très très belle à regarder, spectaculaire, qui a beaucoup de mouvements. Et en fait, l'Afrique du Sud, elle est, on va dire, très européenne dans son style. C'est une équipe qui est solide, qui ne laisse pas énormément d'occasions, qui défend très bien, qui est solide et qui amène surtout, qui fait déjouer les adversaires et qui amène les équipes là où elles veulent les emmener. Et c'est une totale maîtrise. L'Afrique du Sud voulait aller au tir au but et ils sont allés.
Merci Arthur pour cette analyse. Salé, c'est parti pour les 30 secondes chrono.
Je pense que le match qui s'est passé ce soir, il était un peu, c'est ce qu'on avait un peu dit hier. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud allait jouer avec un bloc très défensif, avoir un bloc bas et très costaud, et que le Cap-Vert allait attaquer. Et je trouve que l'Afrique du Sud a très bien défendu. Malheureusement pour le Cap-Vert, ils ont raté pas mal d'occasions, surtout sur la dernière minute. Ils avaient une occasion de face à face où le gardien il a repoussé sur la barre. L'Afrique du Sud qui a toujours une très belle défense, qui est toujours aussi costaud, et ça part au tir au but. Et l'Afrique du Sud, le gardien, mention spéciale au gardien qui arrête 4 tirs quand même.
Merci Salé pour cette analyse-là. Et oui, je voudrais compléter en tout cas ce que mes chers confrères ont dit un peu et ont trouvé à ce match-là. C'est vrai que le match, moi, en soi, il ne m'a pas emballé. C'était un 0-0 assez terne. Hein, on a vu en prolongation, même en première partie de prolongation, c'est là où on a eu plus de spectacles même que durant 90 minutes. Hein, on a vu la très grosse parade en fin de match du gardien de l'Afrique du Sud, Williams, qui a fait une énorme séance de tir au but. Une énorme séance de tir au but qui a arrêté 4 tirs au but. 4 tirs
au but.
Comment 4 sur 5, oui.
Oui, 4
sur 5.
Un très bon ratio. Arrêté,
voilà, mais c'est plus qu'un très bon ratio. C'est
énorme.
C'est un 4 sur 4, c'est parfait.
Non, mais
quoi.
Il était sur tous les pénaltys.
Il était sur tous les pénaltys.
Il les sort.
Il les sort. Il était sur tous les pénaltys. Je pense que c'est une mention spéciale vraiment pour Williams. Qui, voilà, parce qu'au bout des 80. En tout cas, et même qu'il les sauve en dernière minute déjà. Et sur le match, on remercie aussi la prestation. En tout cas, on salue la prestation de Vozina, le gardien capverdien aussi. En fait, c'était vraiment un match de gardien, on peut dire ça comme ça. C'est un match de gardien parce qu'ils ont sorti de très belles claquettes. Et voilà, je pense que c'est ce qui a résumé un peu.
Mais première mi-temps, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le Cap-Vert qui a avant-danger, ouais, qui a raté une ou deux occasions, oui, deux grosses occasions. Oui. Je crois que c'est Mendes qui, à un moment, qui tire, etc. Il y a toujours, de toute façon, il y aura toujours un pied sud-africain, le gardien. Pour défendre, et c'est une équipe qui peut être une surprise, hein, on ne sait jamais. Hein.
Moi, ils me font penser à l'Égypte, hein, leur style de jeu.
Ouais, exactement.
Ils me font penser à l'Égypte, même si des fois c'est un peu plus attractif. On a vu le 4-0 quand même qu'ils ont infligé au Namibie, mais ça me fait penser un peu au.
Oui, je pense que la confrontation Afrique du Sud-Nigéria, ça serait un match très très difficile parce que le Nigeria va attaquer, vu que vraiment c'est deux styles un peu similaires. Mais je vois une équipe d'Afrique du Sud qui va garder son même cap avec Hugo Boss. Okay, Hugo Boss, il gagne la Coupe d'Afrique 2017 avec le Cameroun, avec ce même style de jeu, c'est-à-dire un système ultra défensif, mais avec des percées d'éclairs, de contre-attaques et tout ça qui sont bien préparés. Et je pense que l'Afrique du Sud est capable de mettre le Nigeria en difficulté.
Et toi, Salé ?
Bon, je ne suis pas très d'accord avec toi, parce que de ce que j'ai vu, ce soir, l'Afrique du Sud allait passer à ça de se prendre pas mal de buts dans ce match-là. Ils ont eu un très grand gardien, et les occasions qu'ils ont subies aujourd'hui, Oshimen, Simons et Lookman, je pense pas que ça sera pareil, ça va finir rapidement. Donc surtout que, comme j'ai dit, ce sont deux blocs très défensifs, la Nigeria va attaquer et eux, ils vont le finir. Ça sera pas pareil.
Je pense que l'Afrique du Sud est un peu négligée aussi, le Cap-Vert, je pensais pourquoi ils
concèdent cette occasion. Moi, je pense pas qu'ils les ont négligés, je pense qu'ils ont joué avec leurs moyens. Mais on a toujours vu l'Afrique du Sud, un match où ils étaient un peu dans le dur et un autre match où ils font un match excellent. Du coup, là, comme ils étaient un peu dans le dur, on peut s'attendre aussi à un match excellent. Les Nigériens qui n'ont pas encaissé de but durant ces quatre derniers matchs, je pense qu'ils vont avoir du mal à garder quand même.
Oui, les cages enviolées.
Oui, et je pense qu'ils vont avoir du mal à avoir encore les cages enviolées durant ce match-là. Du coup, moi, je pense qu'on peut s'attendre à un beau spectacle. Mais tout ça, ça sera rendez-vous le 7 février. On aura cette demi-finale-là. Et le RDC aussi qui jouera face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci à tous. Le 6 et le 7. Oui, le 7 pour le Nigeria et Afrique du Sud.
Non, les deux matchs, ils jouent le même jour.
Ah ouais, t'es sûr?
Bah oui, moi j'ai regardé.
Désolé pour ce petit
contretemps.
Les deux matchs, ils jouent le même jour.
Non, je pense qu'il y a toujours.
C'est le 7, le 2 se joue le même jour. Le Nigeria, Afrique du Sud à 18h et la Côte d'Ivoire, Congo à 21h le 7 février. Et on se retrouvera le soir du 7 février pour débriefer tout ça avec vous encore. Merci à nos chers auditeurs et auditrices. Et on vous remercie. On remercie aussi Alfred, Arthur, Cheikh Kenza et Salé, en souhaitant un bon rétablissement à Malik et à Brahim, en espérant qu'ils vont revenir très rapidement et qu'ils seront avec nous de la partie le 7 février. Bonne soirée à vous. Merci Jay.